Section 1. Raison d'être d'une réforme. Pour la gloire de Dieu.
1.
La vie qui nous est accordée est de courte durée. En conséquence, nous devrions nous demander, comment puis-je utiliser mes forces pour en tirer le meilleur parti? Comment puis-je contribuer le mieux à la gloire de Dieu et au bien de mes semblables? Car la vie n'a de valeur que si elle est employée à réaliser ses objectifs. Notre développement personnel constitue notre premier devoir envers Dieu et envers nos semblables. Chacun des dons que Dieu nous a confiés devrait être amené à son plus haut degré de perfection, pour nous permettre de faire le plus de bien possible. Par conséquent, c'est faire un bon emploi du temps que de le consacrer au développement et à la préservation de la santé physique et mentale. Nous ne devons jamais amoindrir ou entraver une fonction du corps ou de l'esprit. Si nous le faisons, nous en subirons à coup sûr les conséquences. Une question de vie ou de mort. Chaque homme a suffisamment d'occasions pour devenir ce qu'il a choisi d'être. Les bénédictions de la vie présente et de la vie à venir lui sont accessibles. Il peut se former un caractère d'élite, et croître en force à chaque pas. Il a la possibilité chaque jour d'augmenter sa science et sa sagesse, et d'éprouver de nouvelles joies à mesure qu'il se développe en grâce et en vertu. Ses facultés se multiplieront par l'usage, et la sagesse qui lui est ainsi accordée lui permettra d'en acquérir davantage. Son intelligence, sa connaissance et sa vertu gagneront en force et en harmonie. En revanche, il peut amoindrir ses facultés s'il n'en fait pas usage, s'il s'adonne à de mauvaises habitudes ou s'il manque de maîtrise de soi et de fermeté morale ou religieuse. Il descend alors la pente rapidement, comme une conséquence de sa désobéissance aux lois de Dieu et de la santé. Ses appétits le dominent, et ses penchants l'égarent. Il trouve qu'il est plus facile de s'abandonner à la puissance des ténèbres, toujours très active pour le faire reculer, que de tenter un effort de volonté pour réagir contre elle et avancer. Les conséquences en sont une vie de dissipation, la maladie et la mort. C'est l'histoire d'un grand nombre d'existences qui eussent pu être consacrées à une activité féconde au service de Dieu et de l'humanité. Rechercher la perfection. 2. Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu'il nous a rendue capable d'atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, d'adopter les principes qui restaureront en nous l'image divine. Dans les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il nous révèle les principes de la vie. C'est à nous de connaître ces principes. En nous y conformant, nous collaborerons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre corps et de notre âme. 3. L'organisme vivant est la propriété de Dieu. Il lui appartient par droit de création et de rédemption. Par un mauvais usage de l'une ou de l'autre de nos facultés, nous privons Dieu de l'honneur qui lui est dû. Une question d'obéissance. 4. Nous n'avons pas une juste compréhension de notre obligation de présenter à Dieu des corps purs, propres et saints. 5. Toute négligence dans les soins que nous devons à notre organisme est une insulte au Créateur, qui a donné des lois dont l'observance préservera les êtres humains de la maladie et d'une mort prématurée. 6. Une raison pour laquelle nous ne participons pas à la plénitude de la bénédiction du Seigneur est que nous ne prenons pas garde à la lumière qu'il s'est plu à nous apporter par les lois de la vie et de la santé. 7. Transgresser les lois physiques, c'est transgresser la loi de Dieu, car il est l'auteur de celle-ci comme de celle-là. Il l'a écrite sur chacun de nos nerfs, sur chacun de nos muscles, sur chacune de nos facultés. Abuser des uns ou des autres, constitue une violation de la loi morale, PS 356, 1900. 8. Le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée, dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Sur l'erreur d'un comportement qui gaspille inutilement la vitalité ou obscurcit le cerveau, 194. 9. La violation des lois de notre être est un péché au même titre que la transgression du décalogue. L'une et l'autre violation représentent la transgression des lois de Dieu. Ceux qui désobéissent à la loi que Dieu a inscrite dans leur corps seront également tentés de transgresser la loi de Dieu proclamée au Sinaï. Voir aussi 63. Notre Sauveur a prédit à ses disciples que le temps qui précéderait immédiatement son retour serait caractérisé par le même état de choses que celui qui régnait avant le déluge. On mangerait et boirait avec excès, et on se livrerait au plaisir. Or, un tel état de choses existe aujourd'hui. Le monde en général s'adonne à la gourmandise. Le fait de nous conformer aux coutumes mondaines fera de nous des esclaves d'habitudes pernicieuses, et nous ressemblerons plus ou moins aux habitants maudits de Sodome. Je me suis demandé pour quelle raison la population de la terre n'a pas été détruite, comme celle de Sodome et de Gomorre. Il est facile de voir les causes de l'état de dégénérescence et de mortalité du monde. La passion domine la raison, et l'on sacrifie les pensées les plus élevées aux convoitises. Notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé, pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Les enfants de Dieu ne peuvent le glorifier avec un corps maladif et un esprit amoindri. Ceux qui s'abandonnent à l'intempérance dans le manger ou le boire, gaspillent leurs énergies physiques et affaiblissent leur pouvoir moral. 10. Du moment que les lois naturelles sont d'origine divine, nous avons le strict devoir de les étudier avec soin. Nous devons connaître leurs exigences au sujet de notre corps, et nous y conformer. Dans ce domaine, l'ignorance est synonyme de péché. L'ignorance volontaire aggrave le péché, 53. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nos corps sont la propriété que le Christ a rachetée, et nous n'avons pas la liberté de nous en servir comme nous voulons. Pourtant, c'est ce que l'homme fait. Il traite son corps comme si la transgression de ses lois n'entraînait pas de châtiment. Ses appétits dépravés causent l'amoindrissement, la maladie et la paralysie de ses organes et de ses facultés. Et il se sert de ses conséquences, qui sont provoquées par les insidieuses tentations de Satan, pour insulter Dieu. Il se présente devant Dieu avec le corps que le Christ a racheté comme sa propriété. Mais quelle indigne représentation de son Créateur que cet homme! Dieu est déshonoré du fait que l'homme a péché contre son corps et corrompu ses voies. Les hommes et les femmes vraiment régénérés observent consciencieusement les lois de la vie que Dieu a établies en eux, et s'efforcent ainsi d'éviter les faiblesses physiques, mentales et morales. L'obéissance à ces lois doit apparaître comme un devoir personnel. Nous devons nous-mêmes subir les maux qui résultent de la transgression de la loi. Nous devons répondre devant Dieu de nos faits et gestes. Par conséquent, la question qui importe n'est pas « qu'est-ce que le monde dira ?» mais, du fait que je professe être chrétien, comment vais-je traiter la demeure que Dieu m'a confiée ? Vais-je contribuer à mon avancement physique et spirituel en prenant soin de mon corps en tant que demeure du Saint-Esprit, ou vais-je me sacrifier aux idées et aux coutumes du monde ? L'ignorance réclame un châtiment. 11. Dieu a établi des lois qui régissent notre être, et ces lois sont divines. Toute transgression réclame un châtiment, qui survient tôt ou tard. La plupart des maladies qui ont frappé et affligent encore l'humanité ont été provoquées du fait que l'homme ignore les lois qui commandent son propre organisme. Il est indifférent à l'égard de sa santé et il travaille sans se lasser à se détruire lui-même. Lorsqu'il est déprimé et affaibli dans son corps et dans son esprit, il consulte le médecin et se drogue à en mourir. Pas toujours ignorant. 12. Lorsqu'on parle du sujet de la santé à certaines personnes, elles vous répondent « Nous en savons plus long que vous sur ce point ». Elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles sont responsables du moindre rayon de lumière qu'elles possèdent sur les conditions de leur santé physique, et que toutes leurs habitudes sont connues de Dieu et jugées par lui. La vie physique ne doit pas être livrée au hasard. Toute pratique nocive doit être épargnée au corps dans chacun de ses membres et chacune de ses fibres. Responsable des lumières reçues. 13. Depuis le moment où la lumière au sujet de la réforme sanitaire nous a été communiquée, chaque jour je me pose ces questions, est-ce que je pratique la tempérance en toute chose? Mon régime alimentaire me permet-il d'être dans la condition où je puis accomplir le plus de bien possible? Si nous ne pouvons y répondre affirmativement, nous sommes coupables envers Dieu, car il nous rend tout responsable de la lumière qu'il fait luire sur notre chemin. Il tient compte de notre ignorance, mais il exige que nous abandonnions nos habitudes néfastes à la santé et nous met en face de nos responsabilités à l'égard des lois physiques dès que la lumière nous a éclairés. 14. La santé est un trésor. C'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder. La fortune, le savoir et les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé si c'est aux dépens de la vigueur et de la santé. Aucun de ces avantages ne peut assurer le bonheur si la santé est absente. C'est un péché grave que d'abuser de la santé que Dieu nous a donnée, car chaque abus nous affaiblit pour la vie et entraîne une perte même si nous acquérons une instruction supérieure. Exemple de souffrance due au rejet de la lumière, 119, 204. 15. Dieu a abondamment pourvu à l'alimentation et au bonheur de toutes ses créatures. Si ces lois n'avaient jamais été transgressées, si chaque créature s'était conformée à la volonté divine, il en serait résulté la santé, la paix et le bonheur au lieu de la misère et du mal perpétuel. 16. Une stricte conformité aux lois que Dieu a placées dans notre être, nous assurera la santé, et empêchera toute défaillance de l'organisme. Dieu se sert de la réforme sanitaire pour atténuer la souffrance, 788. Une offrande sans défaut. 17. Dans le service rituel israélite, tout sacrifice devait être sans défaut. L'Écriture nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui constitue de notre part un culte raisonnable. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Méditant sur l'œuvre de Dieu dans l'homme, le psalmiste s'écrie « Je suis une créature si merveilleuse ». De nombreux savants possèdent la théorie de la vérité sans comprendre les lois qui régissent leur être. Dieu nous a confié des dons et des talents. Nous devons en tirer le meilleur profit, en tant que ses fils et ses filles. Si nous sacrifions nos énergies mentales et physiques à de mauvaises habitudes ou à de pernicieuses inclinations, il nous sera impossible d'honorer Dieu comme nous le devrions. 18. Dieu demande que nous lui offrions nos corps en sacrifice vivant, non pas mort ou mourant. Les offrandes des anciens Hébreux devaient être sans défaut. Dieu peut-il accepter de bon gré l'offrande d'un corps humain atteint de maladies et corrompu? Il nous déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et il exige de nous que nous prenions soin de ce temple pour en faire une habitation convenable pour son esprit. L'apôtre Paul nous adresse cette exhortation, « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Chacun de nous doit s'efforcer de maintenir son corps en santé, ce qui lui permettra de se mettre au service de Dieu et d'accomplir ses devoirs à l'égard de la famille et de la société. » Une offrande misérable. 19. Il faut que nous apprenions comment manger, boire et nous vêtir de manière à préserver la santé. La maladie est causée par la transgression des lois de la santé, qui se confondent avec la loi naturelle. Notre premier devoir envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes consiste à nous conformer à la loi divine dans laquelle ces lois naturelles sont comprises. Lorsque nous sommes malades, notre entourage en souffre avec nous, et nous sommes incapables d'accomplir notre tâche dans la famille et dans la société. S'il s'ensuit une mort prématurée du fait de notre infidélité à l'égard de la loi naturelle, nous plongeons notre entourage dans la tristesse et la douleur, et nous le privons de l'aide et de la consolation que nous aurions pu lui procurer. De plus, nous frustrons Dieu des services qu'il était en droit d'attendre de nous pour sa gloire. Ne sommes-nous pas alors, dans toute l'acception du terme, des transgresseurs de la loi de Dieu? Mais Dieu est plein de compassion, de miséricorde et de tendresse, et lorsque la lumière vient éclairer ceux qui ont ruiné leur santé par des habitudes coupables, les rendant conscients de leurs péchés, repentants et désireux d'implorer le pardon, il accepte la pauvre offrande qu'il lui présente et les accueille. Quelle tendre miséricorde de sa part de ne pas refuser les résidus de la vie gaspillée du pécheur qui souffre et se repent. Dans sa grande miséricorde, il sauve ses âmes comme à travers le feu. Mais quel sacrifice mesquin et misérable à présenter à un Dieu pur et saint. Les facultés les plus nobles ont été paralysées par des habitudes erronées consacrées aux appétits coupables. Les aspirations sont perverties, et le corps et l'esprit sont dégradés. Les buts des révélations sur la réforme sanitaire. 20. Le Seigneur a laissé sa lumière descendre sur nous en ces derniers jours pour que les ténèbres qui se sont accumulées au cours des générations passées du fait de la présence d'appétits coupables, soient dans une certaine mesure dispersées, et que l'ensemble des maux issus de l'intempérance dans le manger et le boire soient atténués. Le Dieu de toute sagesse a projeté de placer son peuple dans des conditions où il désirera se séparer du monde dans la théorie et dans la pratique, pour que les enfants ne soient pas entraînés dans l'idolâtrie et contaminés par les corruptions inhérentes à cet âge. C'est la volonté de Dieu que les parents croyants et leurs enfants soient des représentants réels du Christ, des candidats à la vie éternelle. Tous ceux qui sont participants de la nature divine échapperont à la corruption que la convoitise répand sur le monde. Il est impossible à ceux qui entretiennent de mauvais désirs d'atteindre à la perfection chrétienne. 21. Dieu a permis que la lumière de la réforme sanitaire brillât sur nous en ces derniers jours, afin qu'en marchant dans cette lumière nous puissions éviter les nombreux dangers auxquels nous serons exposés. Satan opère avec une grande puissance pour inciter les hommes à lâcher la bride à leurs appétits, à satisfaire leurs inclinations et à gaspiller leur temps en d'insouciantes folies. Il présente sous le jour le plus attrayant une vie consacrée à la recherche des plaisirs et à la sensualité. L'intempérance mine les énergies mentales et physiques. Celui qui s'y adonne s'est placé sur le terrain de Satan. Il sera tenté, troublé, puis finalement entièrement dominé par l'ennemi de toute justice. 22. Quiconque tient à conserver sa santé doit être tempérant en toutes choses, tempérant dans le travail, tempérant dans le manger et dans le boire. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour nous préserver des maux engendrés par un appétit dépravé, afin que ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté sachent user avec discernement de tous les biens qu'il leur destine, et que la pratique de la tempérance dans la vie quotidienne leur assure la sanctification par la vérité. 23. Ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Leur pratique nous procure le bonheur dans cette vie, et nous prépare à la vie à venir. Importance des principes de santé. 24. Il m'a été montré que les principes qui nous ont dirigés au début du message sont aussi importants et méritent d'être considérés aussi consciencieusement qu'à ce moment-là. Il en est qui n'ont jamais suivi la lumière qui nous a été donnée sur la question alimentaire. C'est le moment aujourd'hui de sortir celle-ci de dessous le boisseau, afin qu'elle se montre dans tout son éclat. Les principes qui sont à la base d'une vie saine ont une grande importance pour nous en tant qu'individus et en tant que peuple. Aujourd'hui, nous sommes tous mis à l'épreuve. Nous avons été baptisés en Christ. Si nous voulons éviter tout ce qui tend à nous affaiblir et à nous rendre impropres à notre tâche, nous recevrons la force nécessaire pour croître en Christ, notre chef, et nous verrons le salut de Dieu. Ce n'est que lorsque nous considérons d'une manière intelligente les principes d'une vie saine que nous pourrons bien discerner les maux qui résultent d'un régime erroné. Ceux qui, après avoir constaté leurs erreurs, auront le courage de changer leurs habitudes, s'apercevront que la réforme exige beaucoup de lutte et de persévérance. Mais lorsqu'ils auront formé des goûts normaux, ils se rendront compte que l'usage de la viande, qu'ils considéraient inoffensif, préparait lentement mais sûrement la dyspepsie et d'autres maladies. Au premier rang des réformateurs. 25. Les adventistes du septième jour possèdent des vérités de la plus haute importance. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Qu'en faisons-nous? Ils sont nombreux ceux qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données. En tant qu'adventistes, efforçons-nous de réaliser des progrès proportionnés à la lumière reçue. Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la réforme sanitaire. En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. Cependant, il y a parmi nous des membres d'Église qui ont été bien instruits à cet égard, et même des prédicateurs, qui manquent de respect pour la lumière que le Seigneur nous a donnée. Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Que nos professeurs et les hommes qui dirigent notre œuvre se placent résolument sur le terrain biblique en ce qui concerne la réforme sanitaire. Qu'ils rendent un bon témoignage devant ceux qui croient que nous sommes parvenus au dernier jour de l'histoire du monde. Une distinction très nette doit être faite entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. 26. Ceux qui attendent la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, vont-ils se trouver inférieurs aux fanatiques du moment qui ne croient pas au proche retour de notre Sauveur? Le peuple particulier que Dieu lui-même veut purifier en vue de l'enlever au ciel sans le faire passer par la mort, ne doit pas se laisser dépasser par d'autres dans la pratique des bonnes œuvres. Dans son zèle à se purifier de toute souillure du corps et de l'esprit, recherchant la sainteté dans la crainte de Dieu, il doit précéder n'importe quelle classe de la société dans la mesure où sa profession de foi est mieux vécue que ne l'est celle des autres. Réforme sanitaire et prière en faveur des malades. 27. Pour obtenir et conserver la pureté, les adventistes du septième jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré que lorsque l'Israël spirituel s'humiliera devant lui et bannira toute souillure, il écoutera ses prières en faveur des malades, et donnera de l'efficacité aux remèdes. Les efforts de l'homme sont bénis, lorsqu'il fait tout ce qu'il peut, avec foi, pour combattre la maladie, employant les simples méthodes de traitement que le Seigneur a indiquées. Si, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu cultive de mauvaises habitudes, s'il recherche sa propre satisfaction et s'oppose à la réforme, il en subira inévitablement les conséquences. Dieu ne préservera pas miraculeusement ceux qui sont décidés à satisfaire à tout prix leur appétit perverti. Ils se coucheront dans la douleur. Les présomptueux qui disent « Dieu m'a guéri, il n'est pas nécessaire que je m'impose un régime, je puis manger et boire à ma guise », auront bientôt besoin, dans leur corps et dans leur âme, de la puissance guérissante de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a miséricordieusement guéri que vous pouvez imiter les pratiques du monde. Conformez-vous à l'ordre du Christ, après ces guérisons, va, et ne pêche plus. Il ne faut pas que l'appétit soit votre Dieu. 28. La réforme sanitaire est une branche de l'œuvre particulière que Dieu accomplit en faveur de son peuple. J'ai vu que la raison pour laquelle Dieu n'écoute pas davantage les prières de ses serviteurs en faveur des malades qui sont parmi nous, est qu'il n'en serait pas glorifié du moment que les malades continueraient à transgresser les lois de la santé. J'ai vu aussi que le Seigneur désire que la réforme et l'institut sanitaire préparent le chemin pour que la prière de la foi soit pleinement exaucée. La foi et les bonnes œuvres doivent collaborer pour soulager ceux qui souffrent parmi nous, les rendre capables de glorifier Dieu ici-bas et d'être sauvés lorsque le Christ reviendra. 29. Beaucoup de gens espèrent que Dieu les préservera de la maladie parce qu'ils lui demandent de le faire. Mais Dieu n'exauce pas leurs prières, du fait que leur foi ne se démontre pas par des œuvres. Dieu n'accomplira pas de miracle pour éloigner de la maladie ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui ne font rien pour prévenir la maladie, mais qui persévèrent dans la transgression des lois de la santé. Lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder la santé, nous pouvons espérer que d'heureux résultats suivront, et nous pouvons, par la foi, demander à Dieu de bénir ses efforts en vue du maintien de la santé. Il exaucera nos requêtes, si son nom s'en trouve glorifié. Que tous comprennent qu'ils ont une part à accomplir. Dieu n'agira pas d'une manière miraculeuse pour préserver la santé de ceux qui se conduisent de façon à tomber malades en négligeant les lois de la santé. Ceux qui, du fait qu'ils suivent leurs inclinations, ont à souffrir de leur intempérance, et qui recourent aux drogues pour être soulagés, peuvent être certains que Dieu n'interviendra pas pour sauver une santé et une vie témérairement exposées. La cause a produit son effet. Plusieurs, en dernier ressort, conformément à la parole de Dieu, implorent les prières des anciens de l'Église pour la restauration de leur santé. Dieu considère qu'il n'est pas convenable d'exaucer de telles prières d'intercession, car il sait que si ces personnes recouvraient la santé, elles s'immoleraient à nouveau sur l'autel des appétits malsains. Voir aussi 713. Une leçon à tirer de l'échec d'Israël. 30. Le Seigneur avait promis à Israël que s'il s'attachait à lui et lui obéissait en toutes choses, il le préserverait de toutes les maladies dont il avait frappé les Égyptiens. Mais cette promesse était conditionnelle. Si les Israélites avaient suivi les instructions reçues, et tiré profit de leurs avantages, ils auraient été pour le monde une leçon de choses par leur santé et leur prospérité. Mais ils ne réalisèrent pas le dessein que Dieu s'était proposé à leur égard, et ils perdirent ainsi les bénédictions qui leur étaient réservées. Néanmoins, Joseph, Daniel, Moïse, Élie, et tant d'autres nous ont laissé de nobles exemples des résultats que l'on peut obtenir en se conformant aux règles établies. La même fidélité produira aujourd'hui des résultats semblables. C'est à nous que s'adressent ces paroles, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 31. Si les Israélites avaient obéi à ces instructions, s'ils avaient su tirer profit de leurs avantages et vécu selon le plan de Dieu, ils auraient été préservés des maladies qui affligeaient les autres nations, et, pour le monde, un vivant exemple de santé et de prospérité. Plus que tous les autres peuples, ils auraient possédé la force physique, la vigueur intellectuelle. Voir aussi 641-644. La course du chrétien. 32. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici sont présentés les effets de la maîtrise de soi et de la tempérance. L'apôtre se sert des divers jeux que les anciens Grecs organisaient en l'honneur de leur Dieu pour représenter le combat spirituel et sa récompense. Ceux qui participaient à ces jeux devaient s'imposer une discipline sévère et s'abstenir de tout ce qui pouvait diminuer leur force physique. Ils devaient renoncer aux repas plantureux et au vin afin de conserver intacte leur vigueur, leur courage et leur endurance. Remporter le prix, constitué par une couronne corruptible de fleurs décernées sous les applaudissements de la multitude, était considéré comme le plus grand des honneurs. Si l'on pouvait s'imposer autant de privations et se donner autant de peines pour un prix d'aussi peu de valeur, et qu'un seul coureur pouvait obtenir, Combien plus grand ne devrait pas être l'esprit de sacrifice et de renoncement de ceux qui ont en vue une couronne incorruptible et la vie éternelle? La tâche qui nous incombe est solennelle. Nous devons conformer toutes nos habitudes, tous nos goûts et toutes nos inclinations aux lois de la vie et de la santé. Nous parviendrons ainsi à une condition physique parfaite, et notre lucidité mentale nous permettra de discerner clairement entre le bien et le mal. L'exemple de Daniel. 33. Pour être bien comprise, la question de la tempérance doit être considérée du point de vue biblique. Nulle part ailleurs nous ne saurions trouver de meilleur exemple de la vraie tempérance et des bienfaits qui en découlent que dans la conduite du prophète Daniel et de ses compagnons hébreux à la cour de Babylone. Dieu récompense toujours la droiture. On avait rassemblé à Babylone, de tous les pays soumis par le grand conquérant, les jeunes gens les mieux doués, mais les captifs hébreux les surpassaient tous. Leur taille élancée, leur démarche ferme et aisée, leur belle apparence, la clarté de leur perception, la pureté de leur haleine, autant de manifestations de leurs bonnes habitudes, étaient des marques de noblesse dont la nature honore ceux qui obéissent à ses lois. L'histoire de Daniel et de ses compagnons a été rapportée dans les pages de la parole inspirée pour le bien de la jeunesse de tous les temps. Ce que ces jeunes ont fait, d'autres peuvent le faire. Si ces jeunes Hébreux sont demeurés fermes face à de grandes tentations, et s'ils ont rendu un noble témoignage en faveur de la vraie tempérance, la jeunesse d'aujourd'hui peut en faire autant. Cette leçon vaut la peine d'être méditée. Le danger qui nous menace n'est pas la disette, mais l'abondance. Nous sommes constamment portés aux excès. Ceux qui désirent maintenir intactes leurs facultés pour le service de Dieu, doivent user sobrement des biens qu'il nous dispense, et s'abstenir complètement de tout ce qui est nuisible ou avilissant. La jeunesse d'aujourd'hui est sollicitée de tous les côtés par le plaisir. Dans nos grandes villes principalement, toutes les satisfactions sensuelles sont rendues faciles et attrayantes. Ceux qui, à l'exemple de Daniel, refusent de se souiller, récoltent la récompense de leur sobriété. Leur vitalité plus grande et leur force de résistance accrue constituent une réserve dans laquelle ils peuvent puiser en cas de nécessité. De bonnes habitudes physiques assurent une supériorité mentale. La puissance intellectuelle, la force physique et la durée de la vie dépendent de lois immuables. En ce domaine, il n'existe ni favoritisme, ni chance. Le Dieu de la nature n'intervient pas pour soustraire les hommes aux conséquences de la transgression des lois naturelles. Il y a beaucoup de vérité dans ce proverbe, tout homme est l'artisan de sa destinée. S'il est vrai que les parents sont responsables de l'empreinte qu'ils laissent sur notre caractère, comme aussi de l'éducation et de l'instruction qu'ils nous donnent, il n'en est pas moins vrai que notre état et notre utilité dans la vie dépendent, dans une large mesure, de notre comportement. Les avantages que Daniel et ses compagnons retiraient de leur première formation et de l'éducation qu'ils avaient reçue, n'auraient pas suffi à faire d'eux ce qu'ils sont devenus. Le moment vint où ils durent agir de leur propre initiative, leur avenir ne dépendant plus désormais que d'eux-mêmes. Ils décidèrent alors de demeurer fidèles aux instructions reçues dans leur enfance. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, était la base de leur grandeur. L'Esprit de Dieu fortifia toutes leurs bonnes intentions et toutes leurs nobles résolutions. 34. Ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui fréquentaient cette école de formation, non seulement étaient admis au palais royal, mais ils devaient également consommer des mets et boire du vin que l'on servait à la table du roi. En agissant de la sorte, le roi s'imaginait qu'il leur faisait grand honneur et qu'il leur assurait un développement physique et mental optimum. Parmi les viandes présentées à la table du roi, il y avait de la viande de porc et d'autres viandes déclarées impures par la loi de Moïse, et qui étaient formellement interdites aux Hébreux. Une épreuve sévère se présentait à Daniel. Resterait-il fidèle aux enseignements de ses pères concernant les viandes et les boissons ? En risquant d'offenser le roi et de perdre non seulement sa position mais aussi la vie, ou transgresserait-il le commandement de Dieu, en se pliant à la faveur du roi, s'assurant ainsi de grands avantages intellectuels, et une enviable situation dans le monde? Daniel n'hésita pas longtemps. Il décida de demeurer intègre quoi qu'il dût lui en coûter. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. De nombreux chrétiens de profession d'aujourd'hui estimeront que Daniel était trop scrupuleux, et le tiendront même pour étroit et bigot. Ils considèrent que la question du manger et du boire est trop peu importante pour justifier une attitude aussi ferme, entraînant probablement le sacrifice de tous les avantages terrestres. Ceux qui raisonnent de la sorte découvriront au jour du jugement qu'ils se sont détournés des exigences précises de Dieu, et qu'ils ont érigé leur propre opinion en critère du bien et du mal. Ils se rendront compte que ce qui, à leurs yeux, ne revêtait que peu d'importance, était jugé tout autrement par Dieu, dont les exigences doivent être religieusement remplies. Ceux qui acceptent et gardent l'un de ces préceptes parce que cela leur convient, tandis qu'ils en rejettent un autre du fait que son observance implique un sacrifice, rabaissent le niveau de la droiture et, par leur exemple, incitent les autres à manquer de respect à l'égard de la sainte loi de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, doit être notre règle en toutes choses. Le caractère de Daniel est présenté au monde comme un exemple de ce que Dieu peut accomplir en faveur de l'homme, déchu dans sa nature et corrompu par le péché. Le récit de cette vie de noblesse et de renoncement est un encouragement pour notre faible humanité. Nous pouvons en recevoir de la force pour résister vaillamment à la tentation, et par la grâce de l'humilité, nous tenir aux côtés de la droiture dans l'épreuve la plus sévère. Daniel aurait pu trouver une excuse plausible pour délaisser ses habitudes strictes de tempérance, mais l'approbation de Dieu avait plus de prix à ses yeux que la faveur du plus puissant potentat de la terre, un prix égal à la vie elle-même. Sa conduite aimable lui ayant gagné l'estime de l'intendant ayant la charge des jeunes Hébreux, Daniel lui demanda de bien vouloir les dispenser de la nourriture et du vin du roi. En accédant à cette demande, l'intendant craignait d'encourir le déplaisir du roi, risquant même sa propre vie. Trouvant en cela de nombreux imitateurs de nos jours, il pensait qu'un régime sobre rendrait ces jeunes gens pâles, faibles en apparence et diminuerait leur force musculaire, alors que l'opulente nourriture de la table du roi leur garderait beauté et fraîcheur, et leur permettrait une activité physique plus grande. Daniel demanda que toute la question fût résolue par une épreuve qui durerait 10 jours. Pendant ce temps, les jeunes Hébreux se contenteraient d'une nourriture frugale alors que les autres captifs mangeraient les mets du monarque. La requête fut accordée, et Daniel sut d'emblée qu'il venait de remporter la victoire. Bien qu'étant encore jeune, il avait observé les effets nocifs du vin et d'une nourriture abondante et excitante sur la santé physique et mentale. Au bout des 10 jours, le résultat fut contraire à celui que redoutait l'intendant. Non seulement dans leur apparence personnelle, mais aussi dans leurs aptitudes physiques et dans leur vigueur mentale, ceux qui avaient été tempérants présentaient une nette supériorité sur leurs compagnons qui s'étaient conformés à leurs appétits. Il en résulta que Daniel et ses 3 amis purent continuer à observer leur régime frugal pendant toute la durée de leur formation en vue d'être au service du royaume. Gagner l'approbation de Dieu. Le Seigneur regarda avec faveur la fermeté et l'esprit de renoncement de ces jeunes Hébreux, et répandit sur eux sa bénédiction. Il leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme des 3 ans que dura leur formation, le roi les questionna pour se rendre compte de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. On trouve ici une leçon pour tous, mais spécialement pour les jeunes. Une stricte conformité aux exigences de Dieu est profitable à la santé du corps et de l'esprit. Si l'on veut atteindre au plus haut niveau des connaissances morales et intellectuelles, il est nécessaire de rechercher auprès de Dieu sagesse et force, et de pratiquer une tempérance stricte dans toutes les habitudes de la vie. Dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons, nous avons un exemple de la victoire des principes sur la tentation de satisfaire ses appétits. Elle nous montre que par l'observation de principes religieux, les jeunes peuvent triompher des désirs de la chair, et demeurer fidèles aux exigences de Dieu, même s'il doit leur en coûter de durs sacrifices. Sur le régime alimentaire de Daniel, 117, 241, 242. Pas prêt pour le grand cri. 35. Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Quant à eux-mêmes personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne doivent pas laisser à Dieu, qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. C'est une œuvre individuelle, une personne ne peut l'accomplir pour une autre. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, obnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. Pour se préparer à être transmués, les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils doivent acquérir des notions quant à leur propre organisme de manière à pouvoir dire, avec le psalmiste, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ils doivent constamment assujettir leurs appétits aux facultés mentales et morales. Le corps doit être le serviteur de l'esprit, et non l'esprit le serviteur du corps. Préparation en vue du réveil. 36. Dieu demande à ses enfants de se purifier de toute souillure du corps et de l'esprit, achevant leur sanctification dans la crainte du Seigneur. Tous ceux qui sont indifférents à l'égard de cette œuvre et qui se découvrent des excuses, attendant que le Seigneur accomplisse en leur faveur ce qu'il leur demande de réaliser eux-mêmes, seront trouvés en défaut, alors que les débonnaires, qui ont pris garde au jugement divin, seront mis à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Il m'a été montré que si les enfants de Dieu ne réalisent aucun effort, et attendent que se produise le réveil pour renoncer à leurs égarements et corriger leurs erreurs, et s'ils font dépendre de ce réveil l'initiative de se purifier des souillures de la chair et de l'esprit, et de proclamer le grand cri du troisième ange, ils seront trouvés trop légers. La puissance divine du réveil ne s'empare que de ceux qui s'y sont préparés en accomplissant l'œuvre que Dieu exige d'eux, notamment de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant leur sanctification dans la crainte du Seigneur. Appel aux hésitants. 37. Le fait que les bons principes n'ont pas été appliqués a eu une influence néfaste sur l'histoire du peuple de Dieu. Il y a toujours eu des adversaires de la réforme sanitaire, et Dieu s'est trouvé déshonoré par la profonde carence en spiritualité qui a résulté de leur action. Si les enfants de Dieu avaient marché dans la lumière, certaines barrières qui se sont élevées n'eussent jamais pu être dressées. Nous qui avons bénéficié de si grands privilèges, allons-nous permettre au monde de nous devancer dans le travail de la réforme sanitaire? Allons-nous dévaloriser nos facultés, et abuser de nos capacités par une alimentation fautive? Allons-nous transgresser la sainte loi de Dieu, en nous livrant à des actes égoïstes? Nos inconséquences vont-elles devenir un objet de risée? Nos vies seront-elles si antichrétiennes que le Sauveur aura honte de nous appeler ses frères? Ne voulons-nous pas plutôt accomplir cette œuvre médicale missionnaire, qui est l'Évangile mis en application, de manière à permettre à la paix de Dieu de diriger nos cœurs? Ne voulons-nous pas écarter chaque pierre d'achoppement des pieds des incroyants? Nous souvenons de ce que doit être un christianisme dûment professé? Il vaut beaucoup mieux renoncer au nom de chrétien que de s'en réclamer et en même temps entretenir des désirs qui favorisent des passions malsaines. Dieu invite chaque membre d'Église à consacrer sa vie sans réserve à son service. Il adresse un appel en faveur d'une vraie réforme. La création entière gémit sous la malédiction. Les enfants de Dieu doivent se mettre dans des conditions où ils peuvent croître en grâce, être sanctifiés par la vérité, corps, âme et esprit. En renonçant à tous les appétits nocifs à la santé, ils pourront avoir une notion plus exacte de ce qu'est la vraie piété. Un remarquable changement pourra être observé dans la vie religieuse. Tout mis à l'épreuve. 38. Il est très important que nous accomplissions notre part personnelle avec soin, que nous ayons une notion claire de ce que nous devons manger et boire, et de la manière dont nous devons vivre pour préserver notre santé. Tous sont mis à l'épreuve pour que soit établi s'ils acceptent les principes de la réforme sanitaire ou s'ils suivent la voie de leur propre désir. Que personne ne pense qu'il peut agir exactement comme il le souhaite. Mais en présence de ceux qui sont assis à la même table que vous, montrez que dans le domaine de la nutrition comme en tout autre domaine, les principes que vous observez contribuent à révéler la gloire de Dieu. Vous ne sauriez vous permettre d'agir autrement, car vous devez former un caractère en vue de la vie éternelle. De grandes responsabilités reposent sur chaque âme humaine. Comprenons-les et assumons-les noblement dans le nom du Seigneur. À chacun de ceux qui sont tentés d'entretenir la gourmandise, je dis, ne succombez pas à la tentation, mais limitez-vous à ne consommer que des aliments de qualité. Vous pouvez vous habituer à un régime sain et à l'apprécier. Le Seigneur vient au secours de ceux qui font preuve de bonne volonté. Mais comment pourrait-il aider ceux qui ne se donnent aucune peine pour se conformer aux vues et aux desseins de Dieu? Faisons notre part, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, de peur de commettre des erreurs dans la manière de traiter notre corps que, devant Dieu, nous avons le devoir de maintenir dans le meilleur état de santé possible. La vraie réforme est la réforme du cœur. 39. Ceux qui se proposent de travailler pour Dieu ne doivent pas rechercher les faveurs du monde et la satisfaction de leurs désirs égoïstes. Les médecins travaillant dans nos institutions doivent être pénétrés des principes actifs de la réforme sanitaire. Les hommes ne peuvent être vraiment tempérants avant que la grâce du Christ ne s'implante dans leur cœur comme un principe permanent. Toutes les promesses du monde ne peuvent arriver à faire de vous, ou de votre épouse, un promoteur de la réforme sanitaire. Aucune restriction dans votre régime alimentaire, quelque sévère qu'elle soit, ne parviendra à vous guérir de votre appétit maladif. Frères et sœurs n'arriveront pas à pratiquer la tempérance en toutes choses avant que leur cœur soit changé par la grâce de Dieu. Les circonstances ne peuvent réaliser de réforme. Le christianisme propose une transformation du cœur. L'œuvre intérieure que le Christ accomplit sera manifestée, extérieurement, sous la direction d'un esprit converti. Le plan qui consiste à travailler d'abord à l'extérieur et essayer, ensuite, à agir à l'intérieur, a toujours échoué et échouera toujours. Le projet de Dieu à notre égard est de commencer au siège même de toutes les difficultés, à savoir le cœur, et ensuite de faire jaillir du cœur des principes de justice. Ainsi, la réforme se réalisera, à la fois extérieurement et intérieurement. 40. Ceux qui élèvent leur idéal aussi près que possible des exigences divines, en accord avec la lumière que Dieu leur a donnée par sa parole et par les témoignages de son esprit, ne modifieront pas leur attitude pour se plier aux désirs de leur parenté ou de leurs amis, individuellement ou collectivement, qui vivent en opposition avec l'organisation avisée de Dieu. Si, dans ce domaine, nous nous appuyons sur des principes, si nous observons scrupuleusement les règles de la nutrition, et si, en tant que chrétiens, nous éduquons nos goûts suivant le plan divin, nous exercerons une influence qui sera approuvée de Dieu. La question se pose, sommes-nous disposés à être de vrais réformateurs? Pour le contexte, voir 720. Une question d'importance primordiale. 41. Je suis chargé de donner à notre Église un message au sujet de la réforme sanitaire, car beaucoup d'adventistes se sont écartés de ces principes. Dieu désire que ses enfants atteignent la stature parfaite d'homme et de femme en Jésus-Christ. Pour y arriver, ils doivent faire un usage judicieux de toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Il ne saurait se permettre de gaspiller aucune force mentale ou physique. La question de savoir comment préserver la santé a une importance capitale. En l'examinant dans la crainte de Dieu, nous nous rendons compte qu'il vaut mieux, pour notre développement physique et spirituel, observer un régime simple. Étudions cette question avec persévérance. Il nous faut des connaissances et du jugement pour agir sagement à cet égard. Les lois de la nature ne peuvent être violées impunément. Tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, du thé et du café, ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière, et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice, banniront de leur régime tout ce qu'ils savent être anti-hygiénique. Dieu exige que les appétits soient purifiés, et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple parfait. L'Église du reste doit être une Église convertie. Il faut que la proclamation du message ait pour résultat la conversion et la sanctification des âmes, et que la puissance de l'Esprit se fasse sentir dans notre mouvement. Ce message, merveilleux, précis, est pour tous. Il doit être proclamé d'une voix forte. Croyons fermement qu'il prendra une importance croissante jusqu'à la fin des temps. Il est des chrétiens de profession qui acceptent certaines parties des témoignages comme venant de Dieu, mais en rejettent d'autres qui condamnent leurs habitudes favorites. Ces personnes travaillent contre leur intérêt et celui de l'Église. Il est essentiel que nous marchions dans la lumière. Ceux qui prétendent croire à la réforme sanitaire et en renient les principes dans leur vie quotidienne se font du mal à eux-mêmes et produisent une impression défavorable sur l'esprit des croyants et des incroyants. Une responsabilité solennelle repose sur tous ceux qui connaissent la vérité, celle de veiller à ce que leurs actes correspondent à leur foi. Il faut que leur vie soit affinée et sanctifiée, afin qu'ils puissent être préparés pour l'œuvre qui doit s'accomplir rapidement au dernier jour de la proclamation du message. Ils n'ont ni temps ni force à dépenser dans la satisfaction de leurs appétits. Ces paroles devraient retentir puissamment à nos oreilles, « Repentez-vous et convertissez-vous ». Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ils sont nombreux parmi nous ceux qui manquent de spiritualité et qui, à moins d'une réelle conversion, seront irrémédiablement perdus. Voulez-vous courir ce risque? Seule la puissance du Christ peut opérer dans les cœurs. C'est elle qui transforme tous ceux qui désirent participer à la vie nouvelle dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, a dit le Sauveur, il ne peut voir le royaume de Dieu. La religion qui vient de Dieu est la seule qui puisse conduire à lui. Pour le servir normalement, il faut que nous soyons nés de l'Esprit divin. Nos cœurs seront alors purifiés, nos esprits renouvelés, et nous recevrons de nouvelles aptitudes pour connaître et aimer Dieu. Nous obéirons spontanément à toutes ses exigences. C'est là le culte véritable. Un front uni. 42. La tâche de promouvoir la réforme sanitaire nous a été confiée. Le Seigneur désire que ses enfants vivent en harmonie les uns avec les autres. Ainsi que vous le savez, nous ne devons pas abandonner les positions dans lesquelles, au cours des 35 dernières années, le Seigneur nous a ordonné de nous tenir. Prenez garde de ne pas vous trouver en opposition avec l'œuvre de la réforme sanitaire. Elle doit aller de l'avant. Car la volonté de Dieu est de diminuer la souffrance qui règne sur notre monde, et de purifier son peuple. Surveillez votre attitude, de peur que vous ne soyez une cause de division. Mon frère, même si vous négligez de recevoir, dans votre vie et dans votre famille, les bénédictions qui découlent de l'obéissance aux principes de la réforme sanitaire, n'en privez pas les autres en vous opposant à la lumière que Dieu a donnée sur ce sujet. 43. Le Seigneur a donné à son peuple un message qui concerne la réforme sanitaire. Cette lumière a brillé sur son sentier depuis 30 ans, et le Seigneur ne peut pas soutenir ses serviteurs dans une carrière qui la neutralise. Il est mécontent lorsque ses serviteurs agissent en opposition au message sur ce point, message qu'il les a chargés de délivrer à d'autres. Pourrait-il être satisfait lorsque la moitié des ouvriers qui travaillent dans un endroit enseignent que les principes de la réforme sanitaire sont aussi étroitement liés au message du troisième ange que le bras est au corps, tandis que leurs collègues, par leur façon d'agir, enseignent des principes qui leur sont entièrement opposés? Cela est considéré comme un péché aux yeux de Dieu. Rien ne décourage autant les sentinelles du Seigneur que de se trouver en relation avec des personnes qui ont des capacités intellectuelles, et qui comprennent les raisons de notre foi, mais qui, en théorie et en pratique, manifestent une totale indifférence envers les obligations morales. La lumière que Dieu a donnée au sujet de la réforme sanitaire ne pourra être tournée en ridicule sans dommage pour celui qui y porterait atteinte. Et aucun homme ne peut espérer remporter quelque succès dans l'œuvre de Dieu tant que, par la parole et par l'exemple, il agira en opposition avec la lumière que Dieu a envoyée. 44. Il est important que des instructions soient données par les pasteurs sur la manière de vivre d'une façon tempérante. Ils devraient montrer comment l'alimentation, le travail, le repos et l'habillement sont en relation avec le maintien de la santé. Tous ceux qui croient à la vérité pour les derniers jours ont une œuvre à accomplir dans ce domaine. Cela les concerne, et Dieu leur demande de stimuler l'intérêt qu'ils portent à cette réforme. Il ne sera pas satisfait de leur façon d'agir s'ils considèrent cette question avec indifférence. Faillir à la bénédiction. 45. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez trébuché face à la réforme sanitaire. Elle vous paraît être un inutile appendice à la vérité. Mais ce n'est pas le cas, elle fait partie de la vérité. Ici, devant vous, se trouve une œuvre à accomplir, qui deviendra plus lourde et sera plus pénible que tout ce qu'il vous a déjà fallu supporter. Tandis que vous hésitez et reculez, négligeant de vous approprier la bénédiction que vous auriez le privilège de recevoir, vous subissez un préjudice. Vous renoncez à la grande bénédiction que le ciel a placée sur votre chemin afin de vous rendre les progrès plus faciles. Satan vous présente cette œuvre sous le jour le plus défavorable, de telle sorte que vous combattez ce qui vous serait le plus profitable, ce qui vous donnerait la santé physique et spirituelle. Des excuses pour mal agir sont imaginées sous l'influence de Satan, 710. Rappelez-vous le jugement. 46. Le Seigneur demande des volontaires pour entrer dans son armée. Les hommes et les femmes chétifs ont besoin de devenir des réformateurs de la santé. Dieu collaborera avec ses enfants dans la préservation de leur santé, s'ils mangent avec circonspection, refusant de surcharger inutilement leur estomac. Avec bienveillance, il a rendu la voie de la nature sûre et sauve, suffisamment large pour tous ceux qui veulent y marcher. Il a donné pour notre subsistance les produits sains et bienfaisants de la terre. Celui qui ne veut pas observer les instructions que Dieu a données dans sa parole et dans ses œuvres, celui qui n'obéit pas aux commandements divins, fait une mauvaise expérience. C'est un chrétien malade. Sa vie spirituelle est faible. Il vit, mais sa vie est dépourvue de charme. Il gaspille de précieux moments de grâce. Beaucoup de gens ont gravement malmené leur corps en négligeant les lois de la vie, et ils ne se remettront jamais des effets de leur négligence. Mais aujourd'hui encore ils peuvent se repentir et être convertis. L'homme a essayé d'être plus sage que Dieu. Il est devenu une loi pour lui-même. Dieu nous demande de prendre en considération ses exigences, et de ne pas le déshonorer plus longtemps en amenuisant nos facultés physiques, mentales et spirituelles. Un déclin et une mort prématurée sont le résultat de l'éloignement de Dieu pour suivre les voies de ce monde. Celui qui est indulgent pour lui-même en supportera les conséquences. Lors du jugement, nous nous rendrons compte à quel point Dieu considère comme sérieuse la violation des lois de la santé. Alors, tandis que nous aurons une vue rétrospective de notre façon d'agir, nous comprendrons combien nous aurions pu mieux connaître Dieu, quel noble caractère nous aurions pu former, si nous avions pris la Bible pour conseillère. Dieu attend de son peuple qu'il acquiert une plus sage compréhension. Alors que nous voyons la misère, les difformités et la maladie qui règnent dans le monde et qui sont le résultat de l'ignorance en ce qui concerne la bonne manière de traiter son corps, comment pourrions-nous nous retenir de donner un avertissement? Le Christ a déclaré qu'au moment où le Fils de l'homme sera révélé, il en sera comme au jour de Noé, quand la terre était remplie de violence et corrompue par le crime. Dieu nous a donné une grande lumière, et si nous marchons dans cette lumière, nous verrons son salut. Il faut un changement certain. Il est temps pour nous d'humilier nos cœurs orgueilleux et obstinés, et de rechercher le Seigneur tandis qu'on peut encore le trouver. En tant que peuple, nous avons besoin d'humilier nos cœurs devant Dieu. Car notre façon d'agir porte la marque de l'inconséquence. Le Seigneur nous appelle à rentrer dans le rang. Le jour se termine. La nuit vient bientôt. On voit déjà les jugements de Dieu se manifester sur la terre et sur la mer. Un second temps de grâce ne nous sera pas accordé. Ce n'est pas le moment de faire un faux pas. Que chacun rende grâce à Dieu de ce que nous ayons encore l'occasion de nous former un caractère pour la vie éternelle.